maintenant, on va commencer par une présentation de Manuel Roux, sans lien de parenté, qui est donc doctorant en sciences de l'éducation avec Luc Robben et Solveig Serre, et qui aussi s'est occupé des archives de Barbet qu'on a pu voir ce matin. Et donc, sans plus attendre, je lui donne la parole.
Bonjour à tous, voilà, je suis Manuel Roux. Certains de l'équipe PIN me connaissent déjà. Comme a dit Pierre, je suis en sciences de l'éducation. Merci Nico, un peu de discipline s'il vous plaît, je suis en sciences de l'éducation. Alors je peux vous attaquer avec un bâton. Alors, cette fois-ci, on a fait le choix avec Luc et Solveig de faire une présentation qui était peut-être un peu moins scientifique, un peu plus ambigu au niveau de ma posture, parce qu'on a décidé de parler de mon groupe, vu qu'on joue à domicile ce soir. Donc je vais essayer en fait de parler de mon groupe pour essayer de parler de le témoignage d'un groupe actuel et ce que c'est que d'être justement un groupe actuel dans la scène, on va dire, punk, hardcore, screamo et plein de catégories, j'en passe. Donc j'ai appelé ma communication socio-jeunesse d'un groupe de musique dans la scène punk actuelle, donc le parcours de vie au sein du groupe PAST. Voilà. Pour la petite introduction, voilà, je suis doctorant en sciences d'éducation et chercheur dans le projet d'études PIND. Ma thèse parle, donc je viens de la commencer, elle traite du sujet réussir en marge des institutions ou la question de l'intelligence punk, étudier carrière sociologique punk et des nouvelles formes d'épanouissement personnel. Donc c'est une recherche ethnologique qui dure depuis 3 ans maintenant, avec des observations participantes, une vingtaine d'entretiens maintenant, de la vidéo de tournée, etc. Et je vais bientôt vivre dans un squat pour récolter des données. Et donc ça questionne aussi la position du chercheur, on pourra en parler après si vous voulez, de cette observation participante. Donc contrairement à la sociologie classique, ça pose des questions justement de l'objectivité. Donc si vous voulez en parler, il n'y aura pas de souci à la fin. Donc je vais déjà vous faire une présentation de mon groupe PAST. Ensuite, je vais vous parler un peu de la vie quotidienne et ensuite donc parler de ce parcours de vie. Donc, parce que pour moi, parler d'un groupe de musique, c'est aussi parler d'un parcours de vie. Donc en sociologie, c'est l'une des façons de récolter de la donnée. Alors rapidement, PAST, donc c'est 8 années d'existence bientôt. Donc c'est 6 expériences studio en comptant les pré-productions. Donc on peut voir là les productions, il y a un disque qui va arriver, mais donc voilà la première démo, après l'EP Never Fall Down et l'album Cliffhanger. C'est Romain Bordery, un pote à nous, qui a fait les visuels. Alors il y a aussi les visuels des tournées. Donc on a fait des coproductions, c'est-à-dire que des labels indépendants nous ont aidés pour financer une sortie vinyle, donc celle de Cliffhanger. Donc il y a un label français, russe, allemand et un autre français aussi. On a déjà fait 4 tournées à travers l'Europe. Il y en a 2 qui sont à venir. Et en tout, ça fait 8 pays européens. Bon, j'en parle comme ça parce que ça questionne aussi on verra ça plus tard, mais qu'est-ce qu'un groupe de musique actuel aujourd'hui qui veut un petit peu voyager? Est-ce qu'on voyageait autant est-ce que la génération d'avant voyageait autant? Donc bon, ça, on pourra questionner ça autour de la table qui s'en suivra, la table ronde. Là, je vous ai sorti juste pour le fun de quelques flyers des différents concerts. Bon, on va passer rapidement, voilà, on peut voir le Végalité, c'est en République tchèque, il y en a en Allemagne, il y en a à Bordeaux, etc. Un truc sympa. On voit un peu les graphismes différents qu'il peut y avoir, en fait. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la transmission de la connaissance dans un peu en marge des institutions. En fait, il faut savoir que PAST, ça a commencé donc la rencontre avec les réseaux sociaux. Donc ça, déjà, ça marque une différence peut-être avec d'autres générations. Mathieu, le bassiste du groupe, a ressorti de derrière les fagots. Alors, on ne voit rien du tout. ça, c'est une discussion qu'on a eue. À l'époque, le groupe s'appelait Fragment. Et on a passé une annonce sur le site Zikinf. donc je sais pas si on peut en parler, mais bon, bref, Zikinf du coup, où on cherchait un bassiste et il a répondu, et c'est comme ça qu'on a rencontré Mathieu, donc c'est chouette de retrouver ça, même si vous pouvez pas le lire. Donc du coup voilà, la rencontre se fait par les réseaux sociaux et elle s'est faite autour d'une volonté commune. J'insiste sur la volonté commune parce que c'est ce qui a fait que on existe depuis 8 ans. Et même si ça paraît rien par rapport à une ancienne génération, on a vu énormément de groupes arrêter depuis. Et on nous a déjà demandé pourquoi on continuait, comment on faisait pour se renouveler, etc. Mais tout simplement, bon, même s'il y a eu un changement de line-up, l'ancien batteur est parti. Mais on s'est tous en fait regroupés autour du live et d'un rêve de partir en tournée. On ne savait pas trop comment faire à cette époque-là. Mais aussi d'avoir une identité rock. Ça paraît peut-être étonnant, mais le groupe qui nous a vraiment soudés, ça a été Interpol. Et on a toujours essayé de prendre un peu de cette influence. Et on commence peut-être aujourd'hui à y arriver plus qu'avant. Donc voilà, il y a cette volonté commune. Il y a aussi la socialisation, du coup. Ça, il faut en parler. Pourquoi je parle de socialisation ? C'est parce que déjà, je pense que le travail d'artiste, en tant que musicien, c'est de jouer avec des codes esthétiques et peut-être sociaux dans lesquels on va baigner, dans le champ dans lequel on va baigner. Et vu que je m'intéresse à penser à la transmission de la connaissance aux marges des institutions, c'est pour aussi remettre en question l'idéologie que les politiques peuvent nous donner aujourd'hui, qui est celle de la méritocratie ou de l'idéologie du don. Bourdieu et Passeron, en parlant de l'école, en fait, il disait grossièrement qu'il y avait une idéologie du don à l'école. Mais alors que justement, la transmission, pourquoi on réussissait à l'école ? Eh bien, c'était parce que c'était le fruit de dispositions acquises grâce à un processus social, donc d'une origine sociale d'où on vient, qui était adaptée aux codes sociaux et donc du coup à celle de l'école, et non le fruit de dispositions naturelles d'un individu. Donc qui dit processus social dit autre, dit socialisation et dit la rencontre. Et donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement sur toute cette présentation-là et dans ma recherche, c'est le principe de rencontre en fait. Peut-être qu'on tombe dans un lieu commun, mais on ne peut pas apprendre sans les autres. Et c'est important quand même de le noter. Donc la rencontre, c'est une condition de la socialisation nécessaire pour donc monter un groupe forcément, mais aussi le faire vivre. C'est un milieu qui est relativement hermétique au reste de la société. Donc on peut voir Becker, je vous conseille la sociologie de la déviance, si vous voulez un peu de lecture, c'est la belle sociologie, facile à lire. Et tout se fait dans le punk de manière informelle, en fait. Donc ainsi, de cette façon, le groupe construit une identité propre autour de divers aspects, que ce soit la recherche du son, du matériel aussi, et de la réinvention des codes musicaux, visuels. Donc en fait, la rencontre permet d'avoir une connaissance, je dirais, culturelle, mais aussi sociale, du milieu dans lequel on baigne. Et c'est cette connaissance-là qui va permettre de jouer avec ces codes-là. Donc on pourrait dire que Past, vu que c'est quand même 8 années d'existence, on peut dire qu'il a servi de base d'acquis pour les autres projets qu'on a eus, que ce soit à travers Mutt, l'autre groupe de Mathieu, ou Phonocène, notre groupe, enfin notre projet vidéo avec Romain, ou Désastre, mon autre groupe de post-rock. Donc mon objectif avec Past, c'est peut-être par transposition de voir ce que c'est que, comme je le disais, d'être un groupe punk aujourd'hui, ou punk hardcore, ou tout ce que vous voulez, et que c'est avoir un groupe de musique, c'est particulièrement propice pour avoir des expériences de vie, mais aussi artistiques. Pour nous, la rencontre qui a été peut-être la plus importante, ou du moins quand on a essayé de rechercher un son, ça a été d'abord d'écouter les groupes qui s'appellent As We Draw et Birds in Row. C'est des groupes qui sont de Laval, qui ont à peu près notre âge, et on a vu qu'ils avaient une façon d'enregistrer qui nous intéressait, un son qui nous intéressait, une façon de le faire, et qui voyageait énormément. Et nous, ça a été vraiment un déclic. Je pense que ça parle à beaucoup de musiciens ici. Il y a toujours eu un déclic avec des groupes qui a donné envie, qui a donné une impulsion, qui a donné envie de rentrer dans un milieu. Et pour nous, ça a été ces deux groupes-là. Là, j'ai mis cette photo rapidement, c'est pour montrer en fait les expérimentations qu'on a pu faire. Là, on avait en fait avec Romain monté un, ah, tu t'en souviens, On avait monté un film et on avait fait composer toute la musique par-dessus, donc c'était il y a quelques années. C'était une expérience assez chouette. On avait joué aussi à l'école d'archi de Bordeaux, c'était cool. Je vais vous parler de l'enregistrement. Après l'expérimentation musicale et la composition, vient le moment de l'enregistrement. Donc nous, la rencontre avec Amaury Sauvé, du coup, qui joue dans As We Draw et qui a enregistré ce groupe Birds in Row et autres, et aussi Dire Walls, on a le batteur ici, a été vachement importante pour nous. Tout simplement parce que déjà, il correspondait à une envie qu'on avait, c'était de faire la prise live. Alors la prise live, pour nous, c'était important parce qu'on voulait avoir un son bon, mais qui colle à ce qu'on pouvait faire en live, en fait. Donc, on ne voulait pas faire ce qu'on appelle du re-re, du piste par piste. On voulait qu'on joue tous ensemble, comme si on était en répétition. Et lui, il proposait ça avec plusieurs techniques d'enregistrement. Donc, on a appris, en fait, avec lui donc, ce que c'était qu'en fait l'enregistrement. Mais aussi avoir, réapprendre à être un peu musicien avec un autre niveau d'exigence à chaque enregistrement. Donc, révisiter sa musique avec un œil extérieur, c'était vraiment, vu qu'on est trois dans Passe, c'était la quatrième personne du groupe, en fait, qui était là pour, tirer un peu les forces du groupe dans l'enregistrement. Et c'est ce qui nous permettait après de travailler autant sur la composition que sur la pratique de la musique. Et donc, l'enregistrement même en tant que chanteur, c'est un exercice qui est génial et qui permet vraiment de voir « Ah mince, c'est là où je suis mauvais, c'est là où il faut que je travaille, etc. » Et donc, ça nous a permis aussi d'être autonome parce qu'aujourd'hui, grâce à son apprentissage, par exemple, Mathieu, lui, est allé en stage avec lui pendant 2 semaines, il me semble que c'était ça, 10 jours. Et du coup, il a appris pas mal de choses. Amaury lui a donné quelques conseils. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui nous enregistre et qui enregistre beaucoup de groupes sur Bordeaux. Donc maintenant, quand on a notre disque, vient le moment du booking. Alors qu'est-ce que c'est que le booking ? Eh bien, j'ai entendu des personnes parler de do it yourself, mais là on y est carrément, on va trouver nos dates. Et vu que nous, notre volonté c'était d'arriver à voyager avec notre musique, encore une fois la rencontre a été hyper importante, entre autres avec Plume de Dire Walls et de Mohawk. De Quentin de As We Draw, Quentin Sauvé aussi son projet solo, et Bart de Birds in Row, parce que c'est des personnes qui nous ont montré qu'on pouvait le faire en fait, qu'on pouvait partir en tournée. Ça paraît bête, mais quand on a un groupe et qu'on vient d'enregistrer un disque et qu'on a envie de partir en tournée, comment on fait si on n'a pas d'exemple ? Ça paraît bête, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Est-ce qu'il faut un manager ? Est-ce qu'il faut un tour manager ? Est-ce qu'il faut avoir des structures derrière nous ? Enfin, tout ça, il y avait toute cette angoisse-là un peu pour nous parce qu'on avait cette envie vraiment de voyager. Et en fait, on s'est rendu compte que ces personnes le faisaient. Et ça paraît compliqué quand même de booker une tournée. Il faut louer un van, il faut demander à des gens. Pourquoi des gens nous aideraient, ne nous connaissant pas, à nous faire jouer en République tchèque ou aux Pays-Bas. Enfin bref. Et donc du coup, c'est des personnes, la Plume, Quentin, Bart et autres, qui nous ont donné ce qu'on appelle des listings. Donc déjà des tournées qu'ils avaient bookées, des contacts qu'ils avaient. Des conseils aussi, des manières de faire, parce qu'il y a une manière de booker les tournées. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il faudrait plus de temps, mais la première approche, c'est quand même une approche de mimétisme. Et après, on apprend à booker par soi-même, du coup. Et aussi l'observation. Donc, grossièrement, j'ai donné quatre étapes de la tournée, du booking de la tournée, qui sont la planification, la prise de contact. Il y a une certaine façon de prendre contact avec ces personnes-là. Je regarde. Les négociations. Il y a une phase de négociation avec un certain langage à employer. Donc, il y a les notions de door deal. On parle quand même pas mal en anglais. J'ai connu des personnes qui parlaient en espagnol aussi quand ils bookaient en Espagne. Apparemment, ça a aidé de parler la langue dans laquelle on allait jouer. Et ensuite vient la promotion qui se fait avec aussi les personnes qui nous font jouer. Les personnes qui nous font jouer sont les personnes comme vous et moi qui sont juste passionnées de musique et qui mettent leur propre argent en jeu en fait pour nous faire jouer. Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi ces négociations, ça peut mettre dans une situation inconfortable de devoir demander un peu plus d'argent alors qu'il n'y a pas eu assez d'entrées. Donc voilà. Donc quand on a le disque, il y a le moment de la distribution et aussi de la communication. Aujourd'hui, on utilise énormément les réseaux sociaux, forcément. Donc Instagram, Facebook, Bandcamp, qu'on utilise pour la musique, la vidéo. On fait nos propres vidéos aussi. D'ailleurs, ça a été le travail avec Romain. Romain, c'est pas mal s'il y a la vidéo aussi en étant en lien avec le projet. Donc, il nous a fait nos clips, etc. Ça nous a permis aussi de lancer notre projet Phonoscène, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de pouvoir tester un petit peu, que ce soit des logiciels, du matériel. Donc, c'est en ça que je dis que un groupe de musique actuel, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec Internet, etc., c'est l'opportunité pour nous de toucher à tout, en fait, les activités qui concernent la musique, de près ou de loin. Donc là, ici, la distribution, la communication, c'est quand on veut sortir un vinyle, il faut contacter des labels parce que ça coûte cher. Et donc des personnes comme vous et moi, pareil, des passionnés qui mettent leur argent du coup en jeu et avec qui on va ensemble mettre une cagnotte en commun pour sortir un vinyle. Donc il faut démarcher les labels. Enfin, j'en parle. Je sais que ce mot est violent, mais c'est un peu ça quand même. C'est même si c'est, on en parle avec une certaine un vocabulaire qui est plutôt de l'ordre de l'amitié, enfin de comment dire, de pas professionnel. C'est d'ailleurs c'est pas la meilleure façon de parler avec les gens. Mais si on a besoin d'argent, il faut contacter plein de gens. Il faut démarcher. Sauf si vraiment vous avez assez d'argent. Après, chacun ses choix. C'est là aussi où on peut questionner ce positionnement, que j'en parlerai plus tard, mais si on décide de sortir un vinyle, il faut passer par là si on n'a pas assez d'argent. Donc du coup, c'est contacter aussi les webzines. Donc là, c'est plus le papier, ça se fait encore, mais de moins en moins. Donc ça, sur Internet, la communication se fait donc sur Internet via ces webzines. C'est conseillé de faire un pressbook pour éviter à chaque fois de redire l'historique du groupe, etc. Puis même pour ce genre de salle où on joue ce soir, il a fallu faire un pressbook pour qu'ils puissent faire de la communication assez facilement. Donc c'est la collaboration avec ces labels, et puis c'est surtout aussi un moment où il faut faire une identité visuelle. Donc avec Romain, ce que je parlais, ça a été l'occasion de travailler différentes choses. Par exemple, sur la pochette de Cliffhanger qu'on voit en bas, on a fait la superposition avec du goudron. Qui nous a permis d'avoir cet effet un petit peu contrasté et donc et aussi faire des clips, donc j'en parlais. Donc la tournée pour nous, ça a été vraiment un accomplissement puisque c'était une volonté qu'on avait. Ça a été un accomplissement parce que pour créer des liens d'amitié dans le voyage, mais aussi un partage culturel, parce que c'est même si ça dure qu'une journée, même si on reste toute une journée avec une personne, celle qui nous organise le concert, on dort chez elle, on voit comment elle vit, on voit son appartement, on parle sa langue, on mange sa nourriture. Donc forcément, il y a comment dire, un certain partage culturel. Qu'est-ce que fait la personne dans la vie, etc. Mais c'est aussi le moyen de diffuser notre musique, parce que peut-être qu'avant, on tournait moins aussi parce qu'il y avait moins cette nécessité. Et donc aussi de voyage, comme je l'avais dit. Qu'est-ce que c'est aussi donc tourner ? C'est aussi une rupture, c'est en vase clos. C'est-à-dire que pendant un moment, toute l'attention est portée sur notre groupe, sur la musique. Donc on pourrait avoir, si on tournait, imaginons, 3 mois, on aurait l'impression que toute la vie tourne autour de la musique. Donc c'est assez sympa à vivre, ça. C'est aussi gérer des contraintes quotidiennes. Il y a une gestion du groupe à avoir, des accords tacites à mettre en route, en fait, sur tout le long de la tournée. Donc il y a une espèce de management qui se crée, certes qui est informel et qui est pas, il y a pas de comment dire, de, c'est pas comme en entreprise, on va dire, toi tu vas avoir tel rôle. C'est naturellement que ça se met en route en fonction des caractères de chacun, etc. Il y a aussi une gestion de soi à avoir, parce que on a des potes par exemple qui partent un mois et demi d'affilée sans ce qu'on appelle de day off, c'est-à-dire de jours où ils ne jouent pas. Forcément, au bout d'un moment, en jouant ce style de musique qui engage énormément le corps, il faut savoir gérer un petit peu. Et c'est là où il y a peut-être aussi une rupture avec ce fantasme du punk qui picole tout le temps, qui se drogue, etc. Là, si vous faites ça, vous ne tenez pas longtemps, quoi. Surtout si vous faites une tournée aux États-Unis. Donc voilà. Donc il y a aussi une anthropologie de la scène à questionner. Quelles sont les pratiques ? Quelles sont les valeurs, les normes dans cette scène-là qu'il faut connaître ? forcément pour apprendre à se positionner. Donc aussi le live en pratique, donc vu qu'on joue dans des endroits qui sont toujours différents, il faut gérer des contraintes toujours qui sont différentes. Il faut adapter, que ce soit au niveau du son, que ce soit aussi au niveau des ambiances, de travailler un peu cet aspect-là aussi du live, quoi. Donc là, c'était exactement la même scène. Là, je vous montre. Là, ça c'était avant pendant les balances. Et ça, c'était une fois qu'on avait mis nos lumières d'appoint, qui donne un petit peu ce côté-là. Bon, ça mange pas de pain, mais ça fait quand même une petite différence. Ouais. Comment ? Ce côté bouffon. Ouais, j'ai bientôt terminé. Donc, puis l'activité quotidienne, du coup, ça questionne aussi cette question de DIY. Donc, c'est toujours... je dirais que on valorise le DIY, mais c'est aussi une condition d'existence pour un groupe, tout simplement. On va pas tomber dans l'idéologie totale, mais comme je l'ai dit, si on a envie de tourner, si on a envie même de créer un groupe aujourd'hui, qui dit qu'il y aura une structure derrière pour nous aider? Enfin, nous, on n'en a pas vraiment eu. On a eu peut-être Rock et Chanson qui nous ont aidés pour des résidences, etc. Mais le reste, c'est nous qui avons appris tout seul, c'est nous qui avons fait ça tout seul. Donc, c'est pour ça que le DIY, c'est un peu un do-it-together aussi, c'est-à-dire cette rencontre-là qui est très importante et qui va nous permettre de rentrer dans des formes d'apprentissage. Et puis... qui questionne aussi cette question de l'argent, de ce tabou de l'argent qu'il peut y avoir dans le punk, mais ça on pourra peut-être en parler plus tard pour éviter de prendre trop de temps. J'ai bientôt fini. Entre éthique et pratique, c'est là où le punk est intéressant parce que quand on est dans ces réseaux punk, on est toujours dans des situations où on est constamment obligé de se positionner. Parce qu'un squat, il y a énormément, on pourrait faire la sémiologie, ça serait très intéressant, il y a énormément de sigles antifascistes, antisexisme, etc. Il y a des discours qui sont... Et donc forcément, on demande à un groupe, ça nous est plein de fois arrivé, de nous demander, est-ce que vous avez des textes qui sont... Enfin, quelle est la nature de vos textes, etc. Et puis même, ça, on se questionne aussi, est-ce que... Une raison toute bête, mais quand on voit un Good Night White Pride, où on voit un mec en train de tabasser ce qui semble être un fasciste, pour eux... est-ce qu'on peut faire l'apologie de la violence dans les deux cas? Enfin, ça questionne aussi ça, quoi. Donc ce positionnement constant qu'on peut avoir, un punk à 18 ans n'est pas un punk à, je suppose, à 50 ans, et les avis peuvent changer, on évolue aussi dans cette... Oui, mais punk avec des conditions différentes, avec un positionnement aussi différent. Punk, c'est aussi mûrir, je suppose. On pourra en parler si tu veux après. Donc voilà. L'intelligence punk, l'adaptation à son environnement, la mobilisation de ressources, l'adaptation constante à son environnement, l'ajustement des pratiques à des formes éthiques, des mises en auto-formation et en co-formation, la connaissance de la scène et surtout les compétences relationnelles et les liens d'interdépendance. En conclusion, ma posture, du coup, traite un peu de cette anthropologie et de cette posture épistémologique. Et faire l'étude d'un groupe, c'est faire l'étude des parcours de vie, selon moi. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Merci. Je tenais juste à remercier Romain, Adrien, Baptiste et Mathieu pour leur matière, que ce soit en vidéo, d'avoir retrouvé des archives, d'avoir utilisé leur visuel, etc. Et Adrien, surtout, je ne sais pas s'il est là, pour m'avoir énormément aidé sur le PowerPoint. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Manuel pour cette présentation qui est un exercice jamais facile, encore au-delà de l'observation participative, là maintenant c'est une étude de ton parcours toi-même, donc est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions?
Merci, je voulais te demander, alors tu l'as évoqué forcément au début, toujours ces histoires de poteaux dans les salles de concert, ouais. Tu l'avais évoqué au début donc le fait que tu vas aller habiter dans un squat, ouais. Et moi, je voulais demander, quand tu parles de cette volonté de rencontre, de socialisation, comment, dans le cadre de tes recherches, tu as estimé que ça pouvait s'insérer et donner une plus-value à tes recherches, le fait de se dire, là, je vais plus me contenter d'y aller en tant que musicien, ouais. Mais je vais y aller en tant qu'habitant. Et est-ce que tu as commencé à structurer, je sais pas, tes postures d'études, etc. Est-ce que ce sera à Bordeaux ou autre part?
Je pense que ça sera à Paris, mais on va voir encore... Non, 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 tu veux pas que je vienne à Paris? Comme tu le sais, vu que tu es chercheur aussi, forcément, et c'est comme d'ailleurs dans la musique, hein, y a des rencontres qui nous donnent envie d'avoir certaines postures. Et moi, ça a été la rencontre avec Loïc Vacan, donc corps et âme, journal ethnographique d'un apprenti boxeur, qui m'a énormément intéressé en fait, et du coup, qui a théorisé sa posture. Donc, le mec est entré à Chicago dans un club de boxe, et le mec, le coach, lui a dit direct: non, t'enfiles les gants si tu veux parler nous. Et du coup, en fait, il a théorisé en fait cette posture-là, et sachant que c'était aussi l'élève de Pierre Bourdieu, ils ont écrit un livre là-dessus, La réflexivité épistémologique, ça s'appelle. Donc c'est un nom barbare, bien, excusez-moi, mais du coup, qui dit que en gros, au lieu de dire que dans ces positions-là, il ne peut pas y avoir d'objectivité, c'est de dire qu'en fait non, de se servir de cette relation, de ces notions de transfert qu'il peut y avoir en psychanalyse. Et aussi, forcément en anthropologie, pour avoir une meilleure connaissance du milieu social, pour percer mieux l'épaisseur sociale et rendre compte, en mettant son corps en jeu et aussi sa personne, d'y aller naïf et de revenir en chercheur avec les outils épistémologiques. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et ça, en fait, pour répondre. Je pense que quand on fait de l'anthropologie, c'est-à-dire que quand on va étudier des pratiques, des façons de faire, des façons de penser, etc., je pense que c'est nécessaire, surtout aujourd'hui, d'y aller, d'être engagé dans son objet d'étude pour justement éviter sortir du livre, surtout dans des sujets qui peuvent paraître a priori non légitimes, en fait, où il n'y a pas forcément... beaucoup de littérature là-dessus, et du coup, ouais.
Ce que tu dis, c'est comme moi quand je vais dans des salles porno, quoi.
Exactement. Voilà, il y a un intérêt tactile, quoi, et sensoriel à être dans ces...
On va passer à une deuxième question.
Oui, tu dis que le groupe a commencé par Facebook, ça veut dire quoi? Vous avez carrément rencontré les membres du groupe sur Facebook?
Alors non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... à l'époque, il s'appelait Fragment, le groupe. Alors pour tout te dire, le batteur, je l'avais rencontré, c'était pas par Facebook, non, c'était juste de la rencontre comme ça, il m'avait revu dans un bar. L'autre guitariste, c'est pareil, c'était la rencontre, mais c'est le bassiste qui est resté du coup, qu'on a rencontré en faisant une annonce pour trouver un bassiste sur le site Zikinf. C'est un site d'annonce de vente de matos, mais aussi d'annonce de groupe. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Voilà. Mais ça se fait beaucoup, hein, vraiment, pour créer un groupe. Surtout quand on vient d'une autre ville.
Je voulais te demander, en fait, si vous n'avez pas d'argent pour sortir un vinyle, pourquoi pas sortir un CD, vu que ça coûte moins cher?
Parce qu'on trouvait le vinyle cool, déjà. Parce que c'est un truc qui se fait beaucoup aujourd'hui dans la scène. Parce qu'on voulait aussi avoir le vinyle de notre propre groupe. Parce qu'on trouve l'objet cool, parce qu'on trouve... Puis même, vu qu'on travaille beaucoup sur les visuels, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le visuel a une place très importante dans le groupe. Et un CD, ça rend moins bien... ça met moins en exergue ce travail de visuel, quoi. Donc on trouvait que le vinyle, c'était plus chouette aussi.
Oui, je voudrais arriver sur la question des générations. Yes. On a vu qu'il y avait beaucoup de respect, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, entre les groupes de la première génération, enfin, des années 70, début des années 80. Est-ce que c'est le même cas? Est-ce qu'il y a déjà une scène bordelaise identifiée des mecs de ta génération ou plus jeunes? Et est-ce qu'il y a ce même type de connivence, de connexion qu'on a pu retrouver avec les plus anciens?
Alors... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les histoires de baston, etc., qu'on a entendues avant, ça, y a pas du tout. Ah non, mais du tout. Là, les personnes qui sont ici, c'est que des potes, en fait. Donc, du coup, c'est des personnes avec qui on a joué. Il y a les filles de Dark Days qui nous ont aussi organisé des concerts avec leur asso. Enfin, les filles, pas que les filles. Je suis désolé. Rock Agreement, elles sont pas toutes dans Dark Days, mais... elles ont une asso qui s'appelle Rock Agreement qui nous ont fait jouer. Non, je pense qu'il y a des liens d'amitié qui se créent, de connivence. On va s'arranger après. Donc, je pense que... Par contre, ce qui est important de noter, c'est que Les communications intergénérationnelles, ça par contre, pas trop. Et c'est pour ça que je suis content d'intervenir aussi en tant que jeune chercheur et de faire intervenir des personnes à la scène actuelle, parce que j'avais cette volonté, et je pense que je ne suis pas du tout le seul, bien au contraire, de pouvoir parler avec ces anciennes générations au-delà des clivages esthétiques qui sont vraiment esthétiques selon moi, et bien sûr de pratiques par rapport aux nouveaux réseaux sociaux, mais ça reste des pratiques DIY, ça reste des personnes passionnées de musique, ça reste des personnes qui à un moment donné ont voulu faire quelque chose, ont voulu vivre leur passion de la musique, et on partage tout ça ici en fait, que ça soit, qu'on soit musicien, qu'on ait un label, qu'on ait, voilà, donc c'est pour ça que ça me semble important qu'on en discute tous ensemble de ça, quoi.
Ouais, bah Manuel, je te laisse le micro pour passer à la table ronde que tu animes.
Ça questionne encore ce truc de... le chercheur parle et puis après il met en... ouais, il trouve rien déjà. Et puis après il fait parler les autres.